Le pape Saint-Pierre II, le Grand, de Crucé Apocalyptica, pape. 21 mars 2005 au 15 juillet 2011. Grand docteur. Calomnié et trahi injustement. Cofondateur de l'ordre des Carmes de la Sainte Face. Patriarche du Palmar de Troya. Deuxième colonne principale de l'Église du Christ dans le désert spirituel du Palmar de Troya. Protecteur et défenseur de la Sainte Église chrétienne palmarienne. Collaborateur magnanime dans la doctrine et la discipline palmarienne. Brûlant du zèle d'Élie. Élevé astre solaire de l'Église. Appelé au siècle Manuel Alonso Corral, il est né à Cabeza del Buey Badajoz, en Espagne, à 6h du matin du jeudi, 22 novembre 1934, jour de Sainte Cécile, vierge et martyre. Et pour cette raison, on lui a donné Cecilio comme deuxième nom de baptême. Quelques jours plus tard, il a été baptisé dans l'église paroissiale. Ride mort. Son père, Joseph Alonso Piri, était originaire de Zamora, et de profession, maître national. Il était profondément catholique et fidèle aux idéaux politiques du mouvement national. Sa mère, Juliane Corral Garcia, fervente catholique, canonisée par son fils le pape Saint-Pierre II le 8 mai 2011, est née dans une ville appelée Alocena, Guadalajara, mais ses parents étaient originaires et vivaient au Vellon Madrid. Les parents de Manuel Alonso se sont rencontrés et se sont mariés pendant que son père exerçait la profession d'enseignant dans cette dernière ville jusqu'à son affectation à Cabeza del Buey. Ils ont eu 7 enfants, 5 garçons et 2 filles, Manuel étant leur 4e. Il a vécu, dans son enfance, dans sa ville natale, la glorieuse guerre civile espagnole, dans la zone rouge jusqu'à peu de temps avant la fin. Là, à Cabeza del Buey, il a dû subir les malheurs et l'insomnie de la situation belliqueuse que vivait l'Espagne. Son père, connu comme enseignant catholique et très fidèle à la cause de Saint Francisco Franco, a été soumis à la persécution des communistes de la ville, sans que cela l'ait fait fléchir dans sa fermeté. Et, même si sa vie était en danger, il a rejeté toujours, avec un héroïsme indescriptible, toute offre favorable qui impliquait la trahison de ses saints idéaux religieux et politiques. La famille a dû subir des bombardements, des abris, des fuites à la campagne, jusqu'à ce que son père ait réalisé l'exploit courageux et inoubliable de passer avec sa femme et ses 3 très jeunes enfants, de la zone rouge à la zone nationale, entre 2 fronts, vers la ville de Zamora où ses parents vivaient. Après la fin de la guerre en 1939, quand il avait 5 ans, sa famille est sortie de Zamora, et s'est installée au Vellon Madrid, où vivaient les sœurs de sa mère et avec elle, son frère Jésus, qui était immédiatement plus âgé que lui. Peu de temps après, ils sont retournés à Cabeza del Buey, jusqu'à la nomination de leur père comme enseignant au Vellon, où Manuel a fait sa première communion. De là, en 1944, à l'âge de 9 ans environ, il s'est installé à Madrid, où son père exerçait son métier définitivement. Madrid était la ville où il avait grandi et il l'aimait tellement qu'il se considérait comme un madrilène dans son cœur autant ou plus que s'il y était né, et il était profondément imprégné de ses coutumes merveilleuses et typiques, de ses traditions pieuses, et de ses traditions et son héritage culturel, historique et politique. Les premières études officielles qu'il a faites à Madrid étaient à l'Institut Vázquez de Mella. À l'âge de 11 ans, il a réussi l'examen d'entrée pour passer le baccalauréat à l'Institut Saint-Isidro. Ici, il a étudié les 7 années du baccalauréat supérieur de l'époque. Le 12 juillet 1954, dans l'ancien bâtiment de l'Université Centrale, il a réussi à l'examen de revalidation, ou examen final, lui donnant droit au titre de bachelier en octobre de la même année. Il a commencé sa carrière de droit, selon le plan libre, car une maladie l'empêchait de toujours assister aux cours. Il faut souligner que les pieux parents de Manuel voulaient donner à lui et à ses frères une solide formation religieuse, car ils pratiquaient la religion avec le plus grand soin et se soumettaient à la Sainte Mère l'Église. Autant que l'on puisse s'en souvenir, personne ne les a jamais entendus prononcer un seul mot offensif ou dédaigneux contre un prêtre. Ses parents, alors que les enfants étaient encore jeunes, souhaitaient, avec un zèle admirable, les emmener à la messe, à la confession et à la Sainte Communion au moins tous les dimanches, jours fériés et les premiers vendredis du mois. Grâce à Dieu, pendant son enfance et sa jeunesse, bien qu'avec des hauts et des bas naturels, il a mené une vie de piété et d'apostolat dans la catéchèse paroissiale et dans les milices de l'Action catholique, collaborant intensément avec ses 2 frères aînés, Joseph et Jésus, qui occupaient des postes. Son frère, Saint Joseph Alonso Corral, est devenu président de la jeunesse. Il a vécu sa jeunesse à Madrid avec une grande joie car, malgré les nombreuses souffrances de la famille dues à de graves maladies, il vivait avec des illusions. Parmi elles, ses études, la littérature et l'art. Son père les emmenait souvent à des concerts, à des représentations de théâtre classique, au musée du Prado et à de nombreux autres lieux culturels. Cependant, son plus grand espoir était d'atteindre la vie religieuse un jour. Combien il a souffert pour cette cause. Car il a toujours vu son désir d'entrer dans un couvent contrarié à cause de sa très mauvaise santé. Il a vécu de nombreuses années avec un cœur brisé pour cette raison. Cependant, il nourrissait toujours un espoir qui se concrétiserait plus tard au Palmar de Troya-Séville, en Espagne. L'âge de 18 ans était important pour lui, car il devenait plus conscient de la vie spirituelle et se livrait pleinement aux pratiques religieuses, atteignant un profond amour pour la pureté. Dans l'église de San Pedro el Real à Madrid, plus connue sous le nom de l'église de la Paloma, il a rencontré une vieille dame appelée María Valiente López. Grâce à elle, il a appris de grandes choses sur la vie spirituelle, en particulier sur la dévotion envers Notre Mère du Perpétuel Secours, de laquelle il devait recevoir tant de faveurs. En tant que pape, il canoniserait la dite femme le 21 juin 2009. Dès l'âge de 18 ans, il a commencé à entrer en contact avec les pères rédemptoristes et il était enthousiasmé par l'esprit missionnaire rural de cet ordre religieux et par la profonde dévotion qu'il professait à la très sainte Vierge Marie sous l'invocation de Notre Mère du Perpétuel Secours. Il était attiré par leur piété de telle manière qu'il a pris un de ses frères comme directeur spirituel. Sa dévotion à la Sainte Vierge est devenue presque une folie, car il ne savait pas passer un moment sans penser à elle. Il voulait s'assurer de sa protection. À cet effet, à l'âge de 18 ans, le 25 juillet, fête de Saint-Jacques, il a fait un vœu solennel d'esclavage marial devant le tableau de Notre Mère du Perpétuel Secours. Vœu qu'il a renouvelé, chaque année, à partir de là jusqu'à sa mort. Il se sentait extrêmement protégé par la Vierge et mettait tout son espoir en elle. Mais la dévotion mariale n'était pas une simple exclamation de ferveur, elle lui a inspiré un grand amour de l'Eucharistie et il a essayé de ne pas manquer un seul jour la Sainte Messe et la Sainte Communion et en plus, de prier le Saint-Rosaire. À cette époque, il souffrait d'une maladie pulmonaire et il y avait peu d'espoir de guérison rapide, car s'il faisait le moindre effort pour mener une vie normale, il retombait malade et devait rester au lit. Chaque année, il se rendait avec ferveur à la neuvaine que les rédemptoristes faisaient à Notre Mère du Perpétuel Secours. Puisqu'il souffrait beaucoup à cause de sa maladie, il demandait à la très sainte Vierge de le guérir. À la fin de 1955, il a commencé à avoir la certitude que, lors de la prochaine neuvaine à Notre Mère du Perpétuel Secours, elle le guérirait complètement, une confiance qui se renforçait en lui chaque fois qu'il regardait l'image de Notre Mère du Perpétuel Secours. Le 7 février 1956, à sa grande tristesse et à celle de toute la famille, son saint frère Joseph est décédé. Au mois de mai suivant, il a assisté comme d'habitude à la neuvaine de la Vierge. Depuis lors, il n'a plus jamais été atteint d'une maladie pulmonaire. Les médecins qui l'ont vu par la suite ont été stupéfaits de voir à quel point il était guéri. Quelques mois après la mort de son frère, en 1956, alors qu'il était en bonne santé, il a commencé à travailler à la Commission de l'énergie nucléaire, grâce à l'un de ses cousins qui y occupait un poste d'ingénieur des mines. C'était une grande joie pour lui de pouvoir gagner sa vie tout en poursuivant ses études de droit, pour lesquelles il ressentait un attrait singulier. Ses progrès dans cette profession lui ont coûté de gros efforts et un sacrifice presque héroïque, car, à cause de son travail, il devait se lever très tôt tous les jours afin de ne pas manquer la Sainte Messe et la Sainte Communion, parce que la journée de travail commençait à 8h du matin et se terminait à 6h de l'après-midi avec une brève pause pour manger. Le travail conclu, il restait dans son bureau pour étudier jusqu'à très tard et il rentrait chez lui après. Il souffrait beaucoup du manque de sommeil. Parce qu'il avait peu de temps pour dormir et en plus, il avait du mal à s'endormir. Son souci de recevoir quotidiennement la Sainte Communion le conduisait très souvent à faire de grands sacrifices et il a noté maintes fois l'intervention de Dieu afin de ne pas être privé de la nourriture surnaturelle. Il était très courant pour lui de parcourir les rues de Madrid à la hâte, cherchant d'une église à l'autre pour recevoir la Sainte Communion, profitant des pauses entre les cours lorsqu'il allait à l'université l'après-midi. Il manquait rarement la Sainte Communion, puisqu'il la cherchait chaque jour avec beaucoup de véhémence. Il a obtenu son diplôme en droit en juin 1963. C'était une grande joie pour lui, car cela lui avait coûté de nombreuses épreuves. Tandis que d'autres, après le travail du bureau, allaient se distraire, ou du moins se reposer, il restait enfermé à étudier pendant de longues heures. En 1964, la Commission de l'énergie nucléaire lui a accordé une bourse pour suivre un cours d'études commerciales. Le nouveau cours impliquait également de grands sacrifices pour lui. À la fin de ses travaux à la Commission, il devait assister à des cours de 7h à 10h du soir, puis, à la maison, commencer à étudier. Si avant il dormait peu, maintenant moins. Mais ses études lui donnaient plus d'avantages pour pouvoir remplir ses devoirs religieux. Puisque, dans le collège des jésuites dans lequel il étudiait ce cours, il y avait, logiquement, une chapelle où il lui était facile d'entendre la messe et de recevoir la Sainte Communion. Le cours d'études commerciales a duré 3 ans et, grâce à Dieu, il a terminé chaque cours avec de très bonnes notes. Surtout le dernier, même s'il était malade au lit avec l'hépatite pendant un mois et avait besoin d'un autre mois de convalescence. En juin 1967, il l'a complété avec le titre correspondant de diplômé. Il partageait son travail et ses études avec l'apostolat de l'action catholique. En outre, il visitait les hôpitaux le dimanche pour enseigner et réconforter les malades. Jusqu'à 28 ans, sa vie d'apostolat était très intense puisqu'il y consacrait tout son temps libre. À une occasion, il a pratiqué les exercices spirituels de Saint Ignace en interne chez les jésuites, où il a été assuré qu'il ne serait pas du tout bon pour la vie religieuse. Néanmoins, ces exercices lui ont été d'une grande utilité et expérience. Il a également participé aux stages de christianisme, qui ont renforcé sa spiritualité, qui commençait déjà à décliner. Mais, dès l'âge de 28 ans, lorsqu'il avait plus de contact avec le monde, il s'est retrouvé entraîné par ses faiblesses humaines, jusque-là presque endormi en lui, et il devait lutter constamment pour se relever après les chutes. Mais, malgré ses nombreuses chutes, il n'a jamais abandonné complètement, car il confessait et recevait très souvent la Sainte Communion. C'était alors des années de grande souffrance intérieure, de désolation indescriptible et presque de désespoir. Mais au milieu de ce tourbillon noir, il a appris au moyen d'un rêve que la très sainte Vierge Marie l'aiderait à vaincre Satan, avec une nouvelle résurgence de sa vie spirituelle, qui serait réalisée plus tard au Palmar de Troya. Dans le rêve, il a vu qu'une grande ombre le jetait dans un terrible précipice et que quelqu'un le prenait entre leurs mains, le libérant de tomber dans l'abîme. Il a toujours été un grand amateur de littérature et d'art. Comme déjà indiqué, son père lui a appris, et à ses frères aussi, l'amour d'un bon livre, de la peinture et d'autres événements culturels non contraires à la loi de Dieu. Sa mère avait moins de temps pour cela, à cause de ses nombreuses occupations à la maison, mais elle partageait également les loisirs de son mari. Il était passionné par chaque œuvre littéraire. Surtout la poésie. Dès son plus jeune âge, il lisait les classiques espagnols, Sainte Thérèse de Jésus, Saint Jean de la Croix, Cervantes, Lope de Vega, Tirso de Molina, Saint-Pierre Calderón de la Barca, etc., et aussi, les sommités du romantisme, les contemporains, etc. Il a réussi à écrire un bon nombre de poèmes et il a remporté le premier prix de poésie dans un concours de poésie. Mais, lorsqu'il est devenu religieux, il a brûlé tous ses écrits. Vers la fin de 1966, alors qu'il suivait encore le cours d'études commerciales, Manuel a rencontré à Madrid, par l'intermédiaire d'un ami, le supérieur des frères de Saint-Jean de Dieu, qui résidait à Séville, au couvent du sanatorium de notre Père Jésus de la Grande Puissance. Sans que Manuel ne lui propose quoi que ce soit, ce supérieur lui a offert un poste dans la compagnie d'assurance et les ateliers de cette œuvre, afin qu'il puisse l'organiser sur le plan administratif et comptable. Manuel a dit oui, mais il a expliqué qu'il devait encore terminer son deuxième cours. Il était très enthousiaste à l'idée de venir vivre à Séville, une ville qu'il avait visitée 2 fois auparavant et qui l'avait séduit par sa beauté extraordinaire. Après ses études, il a demandé un congé de la Commission de l'énergie nucléaire, et il a obtenu un an. Le 15 janvier 1968, il est arrivé à Séville en voiture, accompagné de sa mère et d'un frère. Le supérieur des frères de Saint-Jean de Dieu l'a reçu avec beaucoup d'affection et de considération. Il a commencé son travail en contrôlant tout l'argent déposé dans les banques et caisses d'épargne espagnoles, en raison de la grande campagne menée par le dit supérieur pour la construction de la ville de Saint-Jean de Dieu dans la province de Séville. Plus tard, il s'est consacré au contrôle et à l'organisation de la compagnie d'assurance Saint-Raphaël et Saint-Jean de Dieu, à cette époque dans un état chaotique, mais avec beaucoup de travail et de prudence, il a pu la remettre sur la bonne voie. Il était très heureux de travailler dans cette œuvre. Il était très aimé et respecté par tous, religieux, enfants et employés. Il travaillait avec beaucoup d'enthousiasme, surtout parce que c'était un travail catholique et social. Il ne pensait jamais au sacrifice et il appréciait la grande confiance de ses supérieurs et les autres religieux. Sa venue à Séville, une belle capitale, était bientôt liée à l'un des événements les plus transcendants de l'histoire, les apparitions de la très sainte Vierge Marie au Palmar de Troya et son amitié avec le voyant principal, Clemente Dominguez et Gomez. Le 30 mars 1968, la Sainte Vierge du Carmel est apparue pour la première fois sur un lentisque du domaine de la Alcaparosa à 4 filles du village, Rafaela, Anna, Josefa et Anna. Cette plante, appelée lentisque, était très abondante sur le domaine. Du lentisque de la première apparition, il ne reste plus rien, car les dévots coupaient les branches comme des reliques précieuses. À la place exacte, une petite croix de bois a été placée et autour d'elle on priait et les voyants recevaient les visites célestes. Plus tard, alors que Clémenté était un voyant, la face sacrée de Jésus et l'image de Notre Mère du Palmar ont été placées dans l'endroit du lentisque. De cette façon, l'endroit choisi par la Très Sainte Vierge a été préservé. Après les quatre premières filles, d'autres voyants ont émergé, Rosario Arnia, du Palmar de Troya, le 14 avril 1968. Maria Marin, d'Outrera, le 20 mai 1968, et Maria Luisa Villa, de Séville, le 6 juin 1968. Et, la même année, Antonio Romero, José Navarro, Cayetano, Manuel Fernandez, Antonio Anillo et d'autres, tous des habitants du Palmar de Troya. Plus tard, Arsenia Lanos, de Jerez de la Frontera, a également été choisie comme voyante. Malheureusement, tous ces voyants ont par la suite trahi l'œuvre du Palmar et ont abandonné, pour différentes raisons, ce lieu sacré des apparitions. Manuel a rencontré Clémenté à Séville le 18 mai 1968. Et c'était au moment précis, déterminé par la Providence, de pouvoir connaître, suivre et partager les étapes qu'il vivrait comme voyant. Depuis sa rencontre avec Clémenté, leur amitié est devenue de plus en plus proche et sincère. Clémenté est né dans cette ville de Séville, le 23 avril 1946, dans une maison très proche de l'actuelle cathédrale apostate romaine. Il travaillait dans un bureau en tant que comptable et son mode de vie était simple. Dans les premiers jours de cette amitié et après une conversation, Clémenté lui a révélé qu'en une semaine, il avait eu deux rêves, la Très Sainte Vierge lui était apparue et lui avait imposé l'habit de Saint Dominique. Clémenté lui a dit tout cela en toute simplicité, et Manuel n'y a pas accordé beaucoup d'importance. Mais Clémenté, sûr de la transcendance de ses rêves, a réaffirmé catégoriquement « Je serai dominicain ». Quand il a rencontré Clémenté, Manuel avait déjà visité le lieu des apparitions, il était simplement curieux, tout en maintenant un certain respect et un certain intérêt. Il a parlé de Palmar avec Clémenté, qui avait déjà visité le lieu aussi, et dans la voiture de Manuel, ils se sont rendus au lieu des apparitions. Au cours des diverses visites qu'ils ont effectuées au cours de l'année 1968, leur position était d'une curiosité respectueuse, car ils admettaient au fond qu'il pouvait y avoir quelque chose de surnaturel. C'était le 15 octobre 1968. Ils ont appris que la Très Sainte Vierge avait appelé, par l'intermédiaire de Maria Marin, pour que beaucoup viennent au Palmar ce jour-là. Clémenté et Manuel sont allés au Palmar la nuit. Quand ils sont arrivés, tout avait fini, car il était près de 11 h du soir. Cependant, à cette heure, quelque chose de désagréable les attendait. Quand ils sont arrivés à la porte de la propriété, ils ont remarqué qu'il y avait encore un groupe de personnes dans le lentisque. Ils circulaient, comme s'ils dansaient en cercle autour d'une femme, et tout en riant sarcastiquement, ils chantaient les avenues du rosaire, au milieu des éclats de rire et des applaudissements diaboliques. On pouvait discerner le spectacle scandaleux à cette distance, grâce aux cierges allumés au-dessus. Ils n'osaient pas monter au lentisque. Ils ont prié des avenues, et ils sont retournés à Séville. Quelque temps après, ils ont appris qu'une folle, que personne ne connaissait, avait semé la confusion parmi les personnes présentes en disant qu'elle était l'incarnation de la Vierge du Pilar. À partir de cette date, Clémenté et Manuel ont presque cessé de se rendre au Palmar. Cependant, c'était au début de l'été 1969, grâce à un article publié dans le journal ABC par un père jésuite, en défense du Palmar, qu'ils ont de nouveau manifesté de l'intérêt pour ces phénomènes surnaturels. Une date clé est celle du 15 août 1969, fête de l'Assomption de la Vierge. Dans la matinée, Clémenté et Manuel sont allés passer la journée sur les plages de Cadix. Mais, dans leur itinéraire, ils ont décidé de passer par El Palmar de Troya. Un groupe de personnes attendait un père jésuite qui pourrait peut-être célébrer une messe l'après-midi. Peu après l'arrivée du prêtre, ils ont parlé avec lui, et ont décidé d'y rester toute la journée. Dans l'après-midi d'autres pèlerins sont venus. Le père jésuite a célébré la Sainte Messe sur un autel près du mur, à l'extérieur du domaine des apparitions. Pendant la messe, Maria Luisa Villa a eu une vision de la Très Sainte Vierge. C'était la première fois qu'ils avaient assisté à une extase, même s'ils n'étaient pas très près de la voyante. Ils ont reçu la Sainte Communion avec une profonde dévotion et ont été convaincus que les apparitions du Palmar étaient vraies. Ensuite ils se sont approchés au lentisque, où, à ce moment précis, Maria Marin voyait le Seigneur dans une merveilleuse extase. Soudain, ils ont entendu une voix puissante qui disait avec certitude, « le Christ est ici présent. Tout leur être a frémi. C'était la première fois qu'ils entendaient que le Seigneur apparaissait au palmar. Ils ont également assisté à une vision de Rosario Arnia, sentant un fort parfum céleste. Depuis lors, leur visite au palmar était presque quotidienne. Ils apprenaient à mieux connaître les visionnaires et recevaient la preuve de leur authenticité. Un détail très significatif est l'attention fréquente que le Seigneur et la Sainte Vierge accordaient à Clemente, à travers les différents voyants du palmar, lui conférant une distinction singulière et lui accordant une préférence particulière. Sans aucun doute, le ciel préparait la voie pour celui à qui, plus tard, il confierait ses messages les plus importants. Pour eux, la date du 14 septembre 1969, fête de l'exaltation de la Sainte Croix, était inoubliable. Il faisait déjà nuit. Peu de temps avant, ils avaient assisté à une extase de Maria Luisa Villa, qui les avait remplis d'une grande paix. Mais le diable, à travers une personne présente, a troublé l'âme de Manuel en la comblant de doutes. Clemente et Manuel sont allés vers la route. Une confusion atroce qui avait emprisonné son esprit l'a fait crier « Je ne retourne plus au palmar si la Vierge ne m'appelle pas ». Clemente s'est mis à pleurer. Tout à coup, de l'horizon, une lumière très puissante s'est avancée lentement et s'est posée sur le lentisque, formant une grande croix sur un piédestal de fleurs lumineuses qui émettaient des lueurs merveilleuses. L'émotion était indescriptible. Clemente et Manuel ont couru au lentisque. Mais, à mi-chemin, la vision merveilleuse a disparu. Ils ont demandé à trois personnes qui étaient là en train de prier si elles avaient vu quelque chose. Elles les ont regardées avec étonnement, et ont répondu qu'elles n'avaient rien vu. Le visionnaire José, Cayetano, était là aussi, et il a confirmé leur vision, en entrant, peu de temps après, dans une merveilleuse extase. Ils ont continué à fréquenter El Palmar et c'était le 30 septembre 1969, lorsque Clemente a eu la première vision. Un an et demi s'était écoulé depuis la première apparition au Palmar. Un certain nombre de personnes priaient au lentisque, parmi lesquelles était la voyante Rosario Arnia. Il commençait à faire noir. Soudain, ils ont remarqué une sorte de soupir de la part de Clemente, et il leur a dit qu'il avait vu deux silhouettes, l'une grande et l'autre plus petite, marchant lentement vers le lentisque depuis les hauteurs de la propriété. Les deux silhouettes, qui étaient sombres et dont le voyant ne pouvait pas distinguer le visage, se sont arrêtées à quelques mètres au-dessus du lentisque. Clemente, en même temps qu'il les voyait, était conscient de l'endroit et des gens qui l'entouraient. Il a compris, par les détails un peu indistincts de leur corps, qu'il s'agissait du Seigneur et de Padre Pio. Après la vision, la visionnaire Rosario Arnia, qui avait été témoin de l'apparition, a confirmé qu'ils étaient le Seigneur et Padre Pio. Quelques jours plus tard, il a eu la même vision et dans les mêmes circonstances avec la visionnaire Maria Luisa Villa. À partir de ces dates, Clemente avait fréquemment des visions. Il a aussi vu la Vierge, Saint Joseph et d'autres saints, mais de la même manière que les deux premières, sombres, sans pouvoir distinguer leur visage. Le 8 décembre 1969, fête de l'Immaculée Conception, était une date mémorable pour Clemente. Dans la matinée, ils sont allés au Palmar pour y rester toute la journée. Un bon nombre de personnes se sont rassemblées là. Au milieu de la matinée, Clemente est entré en extase devant la vision de la Vierge Immaculée. Quelques minutes plus tard, le Seigneur est apparu en tant que le Christ roi. C'était la première fois que le visionnaire voyait le Seigneur et la Vierge, distinguant parfaitement tous les détails de leur silhouette et leur visage. Clemente est tombé au sol en extase, avec la perte de tous ses sens. À partir de cette date, toutes les visions de Clemente étaient parfaitement claires. Mais le soir, quand il faisait noir, le ciel lui a offert d'autres visions merveilleuses. Tout d'abord, la Sainte Vierge est apparue entourée d'anges qui portaient les habits de l'ordre de Saint Dominique. Le Seigneur est apparu peu après, et plus tard, un saint. Le Seigneur a dit aux voyants que c'était Saint Dominique. Ce saint fondateur des Dominicains a annoncé à Clemente la présence de Saint Joseph, qui est également devenu visible. Le visionnaire a entendu pour la première fois la voix du Seigneur, celle de la Vierge et celle des deux saints. Mais la vision devenait de plus en plus impressionnante. Clemente a reçu des mains de la Sainte Vierge l'habit de Saint Dominique, que les anges lui ont apporté et avec lequel ils l'ont revêtu. Peu de temps après, il a également reçu les ornements sacrés d'un prêtre et il a récité, en latin, les parties de la messe, dictées par Saint Joseph, à l'exception de la consécration. Tout cela s'est passé de manière mystique, puisque le voyant se voyait ainsi habillé dans la vision. Ceux qui l'entouraient ont discerné seulement ses gestes et sa voix. C'était une extase d'une beauté et d'une émotion indescriptibles. Clemente a reçu le premier message directement de Saint Dominique, le 10 décembre 1969, recommandant la récitation du Saint-Rosaire des Notre Père. Mais ce jour-là, un événement très important s'est produit. Lorsqu'ils sont arrivés au Palmar, la porte d'entrée de du domaine, qui se trouvait à côté de la grande croix dans le mur, était fermée. C'était l'entrée primitive. Ils ont commencé à prier près de l'endroit où l'image de la divine pastourelle serait plus tard intronisée. Clemente est tombé en extase. Il a vu comment Saint Joseph s'est déplacé du lentisque au mur, à côté d'eux. Le Seigneur et Saint Dominique sont également apparus. À la fin de l'extase, il pouvait voir comment une nouvelle porte s'était ouverte. Celle qui existe aujourd'hui. Ils pouvaient à peine surmonter leur étonnement, car personne n'avait entendu le moindre bruit. Seul Saint Antoine Vota leur a dit que, pendant l'extase, Clemente était allé poser ses mains sur le mur, et celui-ci s'était effondré. Chose étrange, car il avait assez de résistance pour ne pas tomber si facilement. Clemente leur a dit que Saint Joseph s'était tenu sur le mur à la même porte. Ils ont tous compris que c'était ce saint qui l'avait ouverte. Ils n'osaient pas entrer. Finalement, ils sont entrés un peu craintifs dans la propriété et quand ils avaient avancé de quelques mètres, Clemente a vu Saint Joseph qui, de la porte, avec son bâton, leur indiquait de monter au lentisque. Le 12 décembre 1969, Clemente a eu une vision de Saint Dominique qui a dit « Regarde maintenant à ma droite la face divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Regarde, mon fils, la face de celui qui a tout donné, même son souffle, pour tes péchés et pour le monde entier, et la sainte face de Jésus est apparue, douloureuse et ensanglantée. » Saint Dominique lui a ensuite transmis des messages importants sur la sainte face, la diffusion de l'adoration de la sainte face dans le monde, le saint chemin de la croix et la communion réparatrice des premiers jeudis, réparant ainsi les outrages à la face divine du Seigneur. Jusqu'à ce que la sainte face soit placée sur le lentisque, il portait un tableau du visage du Seigneur et priait devant lui. La sainte face du lentisque a été placée, par mandat du ciel à Clemente, le 2 février 1970. L'image de la divine pastourelle a été placée et bénie les 1er et 2 mars 1972. Notre mère du Palmar a été placée au lentisque le 12 septembre 1972. Dans son travail professionnel dans l'œuvre de Saint Jean de Dieu, en raison de sa relation avec les apparitions du Palmar de Troya, le prestige de Manuel s'est effondré, parce que les religieux considéraient que son travail dans cette œuvre était incompatible avec les apparitions, en lesquelles ils croyaient fermement. Mais, Manuel n'avait jamais négligé ses devoirs professionnels. La seule raison de cette incompatibilité était que les apparitions du Palmar, après avoir été condamnées par le cardinal apostat de Séville, Bueno Monreal, pouvaient compromettre l'œuvre de Saint Jean de Dieu. Cependant, le supérieur lâche et injuste, ainsi que les autres religieux, connaissaient son honnêteté, son professionnalisme et son intégrité catholique, puisque, en outre, dans les apparitions, ils ont appris à être de vrais chrétiens. Mais leur peur et leur lâcheté, face à ce que les autres pourraient dire, les ont amenés à trahir leur propre conscience, et agissant injustement, ils l'ont renvoyé. Manuel Alonso a été le grand diffuseur des messages palmariens donnés à Clemente Dominguez et l'a accompagné dans de nombreux voyages apostoliques à travers le monde. Tous deux ont injustement perdu leur emploi pour avoir défendu avec courage l'œuvre du Palmar. Et Dieu a permis qu'à partir de ce moment-là, ils puissent se consacrer entièrement à l'apostolat. Dans les divers messages célestes, le Seigneur, la Vierge et d'autres saints ont montré leur amour à Manuel, lui dédiant des mots de gratitude et de louange à travers le voyant. Et même s'il n'était pas un voyant, il avait parfois comme laïc et aussi comme évêque, des charismes personnels qu'il affirmait encore plus, si cela était possible, dans la vérité du Palmar. L'œuvre divine du Palmar de Troya a été terriblement persécutée par la hiérarchie progressive et destructrice de l'Église romaine, dirigée alors par le glorieux pape Saint Paul VI, martyr du Vatican, qui était au courant des apparitions et des messages du Palmar, livré au pape par le voyant même. Le pape Saint Paul VI n'a jamais condamné l'œuvre du Palmar de Troya. Clemente Dominguez et Manuel Alonso ont dû défendre les apparitions palmariennes avec beaucoup d'énergie et de ténacité. Le 23 décembre 1975, malgré de nombreux obstacles, Clemente Dominguez et Gomez, sur l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ, a fondé l'ordre religieux, les Carmes de la Sainte Face en compagnie de Jésus et de Marie, dont Manuel Alonso Corral est le cofondateur. Le 1er janvier 1976, à la demande de la Très Sainte Vierge, Clemente Dominguez et Manuel Alonso ont été ordonnés prêtres par l'archevêque Saint-Pierre Martin Maudin Touc, arrivé de Rome quelques jours auparavant, et le 11 janvier 1976, ils étaient tous deux consacrés évêques. Le 29 mai 1976, à la suite d'un accident de voiture provoqué par Satan, le père Clemente a perdu ses deux yeux. Quelques mois plus tard, par ordre du ciel, le père Clemente a reçu le nom du père Fernando, et le père Manuel Alonso, le nom du père Isidore. L'ordre des Carmes de la Sainte Face a grandi, et un grand collège épiscopal a été formé. Le 6 août 1978, à la mort du pape Saint-Paul VI, l'évêque père Fernando, Clemente Dominguez y Gomez dans le siècle, dans la ville de Santa Fe de Bogota, capitale de la Colombie, a été élu, ouin, et couronné pape directement par notre Seigneur Jésus-Christ. Trois jours plus tard, le nouveau pape, nommé Grégoire XVII, de Gloria Olivae, a transféré le siège de l'église de Rome au Palmar de Troya Séville, en Espagne. C'est ainsi qu'a commencé l'histoire de la papauté au Palmar de Troya, avec la mission de restaurer et de maintenir l'intégrité doctrinale et disciplinaire de l'Église du Christ, au moyen de réformes profondes et d'enseignements magistraux. Pour cela, le pape Saint Grégoire XVII le Très Grand, a convoqué le premier saint, grand, et dogmatique concile palmarien, et le deuxième saint, grand, et dogmatique concile palmarien dans les assemblées desquelles le très révérend père Isidore Marie, secrétaire d'État est intervenu en tant que principal collaborateur. L'œuvre de la Grande Réforme a eu son point culminant avec la préparation et la publication de la Sainte Bible palmarienne. Le très révérend père Isidore Marie, sous les ordres du pape Saint Grégoire XVII le Très Grand, a parcouru différentes régions du monde en prêchant et en enseignant la véritable doctrine catholique palmarienne. Le 24 octobre 2000, le pape Saint Grégoire XVII le Très Grand a rédigé et signé un décret apostolique nommant son secrétaire d'État, l'évêque père Isidore Marie, son successeur à la cathèdre de Saint-Pierre. Immédiatement après la mort du pape Saint Grégoire XVII, le 21 mars 2005 au Palmar de Troya, le nouveau pape a commencé son pontificat avec le nom de Pierre II, de Crucé Apocalyptica. Le 24 mars, jeudi saint, son couronnement officiel a eu lieu dans la cathédrale basilique de Notre-Mère du Palmar couronnée, au Palmar de Troya, avec l'aide de tous les évêques palmariens, les autres membres de notre ordre religieux et d'un grand nombre de fidèles tertiaires de la Sainte Église palmarienne. Le même jour, le 24 mars, Sa Sainteté le pape Pierre II a canonisé son prédécesseur vénéré, le pape Grégoire XVII, le Très Grand. La papauté du glorieux vicaire du Christ, Pierre II, a duré 6 ans, 3 mois et 24 jours. C'était une papauté de grandes œuvres en faveur de l'Église, puisqu'il a écrit et a approuvé la grande œuvre de l'histoire ecclésiastique palmarienne, ainsi que celle de l'œuvre de la vie des saints palmariens, la Bible infantile, la Bible élémentaire et la Bible intermédiaire. Il a également édité et réordonné les messages du Palmar de Troya. Parmi ses écrits, il faut souligner ses 30 lettres apostoliques adressées à l'Église pour enseigner, corriger et encourager son troupeau, qu'il aimait comme grand pasteur. Il a déclaré les années 2008, 2010 et 2011, années saintes. Le 21 mars 2008, il a consacré solennellement l'Église militante, le monde et l'univers entier au Père éternel. De même, il a consacré solennellement l'Église, l'Espagne, le monde et l'univers entier à la Sainte Face de notre Seigneur Jésus-Christ le 30 mars 2010. Il a également mis à jour, révisé et édité divers écrits doctrinaux. Il a élevé à la dignité de la gloire des autels et a déclaré docteur de l'Église un grand nombre de membres illustres du corps mystique du Christ. De même, le 23 juillet 2006, il a infailliblement précisé qu'il descendait par la lignée de son père, de Saint Fernando III, roi de Castille et Léon et de sa première épouse, Saint Béatrice de Suabia. Et par la lignée de sa mère de Saint Alphonse Sanchez de Cepeda et de sa deuxième épouse Sainte Béatrice de Ahumada, parent de la célèbre réformatrice du Carmel, Sainte Thérèse de Jésus. Il a également défini dogmatiquement d'autres thèmes doctrinaux. En tant que pape, il avait un grand intérêt à visiter différentes villes et pays et à célébrer la Sainte Messe partout où il posait ses pieds sacrés, car il pouvait faire germer la parole de Dieu, à l'imitation du premier pape Saint Pierre Ier, le Très Grand. Et ainsi, en accord avec cette aspiration, il était le premier pape connu à avoir célébré la Sainte Messe en Russie, et pendant qu'il était là, il a célébré les Saintes Messes à Saint-Pétersbourg les 27 et 28 mai 2008 et à Moscou les 29, 30 et 31 mai 2008. À Moscou, il a consacré la Russie à la Sainte Face, à Notre Mère du Palmar couronné et au Très Saint Joseph du Palmar couronné, pour implorer au Père Éternel la conversion rapide du peuple russe. Sa santé a commencé à décliner de manière alarmante à partir du début de l'année 2009 en raison de problèmes rénaux dont il souffrait depuis quelque temps. Il a dû subir plusieurs opérations. Au cours de l'une d'elles, qui a duré 5 heures, ils ont découvert qu'il avait un cancer de l'urètre. Ils ont donc décidé de couper l'urètre et de retirer le rein droit car il ne fonctionnait pas à cause de son atrophie. Ensuite, les problèmes sont devenus de plus en plus complexes, parce qu'ils ont détecté une tumeur très maligne, mais malgré les tests et les traitements auxquels il a été soumis, le cancer a continué à évoluer. Son désir d'être guéri, soumis à la volonté de Dieu, afin de pouvoir servir et travailler pour l'Église, le faisait souffrir énormément, car il était toujours conscient de son état grave, voyant qu'il avait de plus en plus besoin d'aide. Chaque jour qui passait était un peu plus mauvais. Cette maladie sapait toutes ses forces. Les médecins qui le soignaient ne savaient pas quoi dire à propos de la résistance de son corps. Il ne pouvait pas expliquer comment il était encore en vie. Il a dû recevoir d'innombrables médicaments et soins à partir de la semaine sainte 2011 jusqu'au jour de son décès. C'était une douleur immense de voir le père général de l'Église dépérir, de le voir perdre la parole, son sourire, son regard et son souffle. Les derniers jours de sa vie, il pouvait à peine manger ou boire, tout ce qui lui était fait était presque inutile. Sa maladie a eu des hauts et des bas, pour lesquels on a toujours pensé qu'il était dans ses derniers moments. Il avait répété à maintes reprises, en raison de son grand dévouement envers Sainte Thérèse, qu'il pensait que le jour de sa mort serait un 15 du mois, puisque la fête du Saint Réformateur était également un 15. Mais le 29 juin s'approchait, fête de Saint Pierre Ier, le très grand, et l'on pensait qu'il y arriverait à peine. Quelques jours plus tard, sa respiration se compliquait de manière alarmante. Avant que la communauté des frères ne se rende à l'office du soir qui commençait la veille de la fête du 16 juillet, tous les frères se sont rendus dans la cellule papale pour dire au revoir au Saint-Père et lui donner leur bénédiction, à cause de son très grave état de santé. C'était un souhait du Saint-Père, qui lui avait été accordé parce qu'il avait toujours voulu dire au revoir à tous avant de mourir, même s'il était inconscient. Quelques heures plus tard, il est mort dans les dépendances papales du couvent des Carmes de la Sainte Face du lieu sacré du Palmar de Troyes, à 20h07 du 15 juillet 2011, veille de la fête du 16 juillet, au même moment où, sur le maître-autel de la cathédrale basilique, à la fin de la procession eucharistique quotidienne, on chantait le Salve Regina, pendant l'encensement final de l'autel. Une fois préparé pour l'enterrement avec le linceul papal et les vêtements pontificaux de couleur blanche, il a été transféré au presbytère du maître-autel de la cathédrale basilique de Notre-Mère du Palmar couronné où il a reçu de grands signes d'amour filial de la part des frères, des religieuses et des fidèles palmariens venus pour le pèlerinage du 16 juillet. Les saintes messes ont été célébrées tout au long de la nuit et du lendemain, avec la récitation des prières propres au pèlerinage. Le 16 juillet 2011 à 20h00, le grand enterrement papal a eu lieu. Le pape Saint-Pierre II, le Grand, a été canonisé solennellement le 17 juillet 2011. Il a été proclamé grand et déclaré protecteur et défenseur de la Sainte Église chrétienne palmarienne. Déclaré grand docteur de l'Église le 26 juillet 2011, fête en l'honneur de Sainte Anne, mère de la très sainte Vierge Marie.